Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce plateau radio en presque direct des rencontres ad hoc du film documentaire Hors Circuit, confortablement installé à Mirabel et Blacon depuis le 9 et jusqu'au 14 septembre. Il est encore temps de vous y rendre. C'est un festival où il y a plein de films à voir, bien sûr, mais aussi des concerts, des tables rondes, des installations sonores insolites, une joyeuse bande de bénévoles, un bar, une délicieuse cantine, bref, venez nous rejoindre. Et je suis en ce moment avec quatre participants et participantes de la table ronde qui vient de se terminer sur un sujet parfaitement mystérieux et très radiophonique, filmer l'invisible. Donc l'invisible des sensations du corps, du vertige, du vide, l'invisible du désir, l'invisible de l'absence, des oublis, des amnésies, bref. On va essayer de recenser un petit peu tous les procédés cinématographiques que vous avez choisi d'utiliser dans vos films. Et j'accueille en particulier donc autour de cette table aujourd'hui, Bojina Panayotova. Tu es venue avec ton film « Je vois rouge ».
Oui, bonjour.
J'accueille aussi Pascal Amand avec ton film « Tu es venu, je n'embrasse pas les images », ça s'appelle.
Exactement.
Bonjour Pascal. Nous accueillons aussi Nathalie, qui est protagoniste de « La rencontre », un film de Corinne Espagnot. Toi, tu joues dans le film.
C'est cela, oui.
Et nous accueillons Jean-Luc Sesco pour son film « Hérédita ». Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir enchaîné derrière cette table ronde pour Radio Saint-Ferréol, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs la richesse de l'échange qu'on vient de vivre. Pour commencer, je voulais peut-être que chacune qui est réelle, vous nous expliquiez quel est l'invisible dans votre film. Tu veux commencer, Bojina ?
Allez, moi je pars dans une enquête à partir d'un manque qui est le passé de mon pays, la Bulgarie, et autour duquel il y a un grand tabou qui est la police politique sous le communisme. Quel rôle elle a joué, et notamment dans ma famille. Et donc je pars dans une tentative de comprendre avec mes parents, mes grands-parents, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, je me heurte à tout un tas d'obstacles, et notamment les difficultés d'accéder aux secrets qui sont dans la famille, mais aussi dans le pays, autour de ce sujet.
Pascal ?
Alors moi, du coup, le point originel du film, c'est que je me retrouve à 14 ans face au corps sans vie de mon père. Et le corps est là, mais lui n'est plus présent. Donc c'est sa présence qui devient invisible. Et après on peut dire la mise en bière, l'enterrement, c'est le corps lui-même qui devient invisible. Donc j'essaie avec les outils du cinéma de refaire venir un corps ou les traces d'un corps. Voilà. Et puis après je réalise aussi que la voix off, je parle beaucoup dans le film, et que la voix c'est vraiment une manière aussi de reconvoquer les souvenirs, les images. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup par le son aussi.
Jean-Luc, avec ton film Hérédita, quel est l'invisible ?
L'invisible, c'est presque le sujet, presque de mon film, parce que je pars de l'idée que le fantôme de l'ancien propriétaire qui a vécu dans cet appartement que j'ai acheté à ma voisine est resté 50 ans. Il a vécu 50 ans dans ce lieu. Et comment le faire apparaître dans la relation que j'ai avec sa fille, donc qui est ma voisine, et l'évolution de cette histoire, donc j'ai mis 5 ans à filmer plus particulièrement ma voisine. Et donc il y a beaucoup d'éléments, oui, qui racontent l'invisible, et beaucoup de procédés qui racontent ce qu'on ne peut pas voir, et pour un peu voyager dans le temps sans bouger vraiment de deux appartements.
Nathalie, est-ce que tu veux parler du film de Corinne Espagnol, toi en tant que protagoniste? Donc c'est comme un tango, la rencontre.
Oui, je vais parler donc en son nom, c'est toujours un peu embêtant, ça n'était pas décidé comme ça, mais ça se présente comme ça. En fait, je crois que Corinne, ce qui était important pour elle, c'était de mettre en image ce qui est invisible par le biais des sensations du corps, c'est-à-dire comment les sensations du corps peuvent prendre forme sur l'écran, finalement. Et avec un deuxième élément qui est important, c'est que je suis personnellement malvoyante et qu'elle souhaitait également montrer comment mes sensations du corps permettaient de me rendre visible ce qui ne l'est pas par mes yeux. Donc c'était une espèce de double échange, si je puis dire, de la perception de la vue, quelque part.
Alors parmi les procédés cinématographiques que vous avez utilisés et que d'autres réalisateurs, réalisatrices ont utilisés, on peut commencer par un petit peu recenser ce qu'on a pu analyser avec des extraits pendant cette table ronde.
Je pense, parce que effectivement, Pascal, il y a tout le travail sur les ombres qu'on voit, qui sont à la fois qui signifient à la fois une présence et qui en même temps incitent le spectateur à penser qu'il y a une autre strate un peu de perception du réel. Qui est donc c'est en proximité avec en l'occurrence toi, j'ai pas vu ton film mais tu dis que tu parles, moi aussi il y a des moments où je parle dans mon film et c'est à la fois moi mais c'est aussi un personnage que je mets en place sur comment j'ai ressenti les choses, donc il y a une sorte de mise à distance et le procédé de l'ombre. Il y a aussi un procédé de miroir, tout en réflexion en fait, qui met à distance et qui en même temps interroge sur les différentes points de vue par rapport au réel.
Donc filmer les ombres, ouais, tu as utilisé aussi ce procédé, Pascal. On a vu un extrait.
Oui, après c'est quand j'ai filmé ça, c'était pas du tout intentionnel. Enfin après moi, ce qui m'intéressait dans cette ombre là. C'est qu'elle est... En fait, j'oublie de préciser que c'est un travelling dans un cimetière, que c'est très tôt le matin que le soleil se lève et que je suis en vélo. J'utilise un vélo pour, comme outil de travelling. Et donc, du coup, on voit mon ombre qui circule sur les tombes. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est que cette ombre, elle grandit ou rapetissit. Et donc, ça peut être un petit enfant en vélo ou un adulte ou un vieillard, en tout cas, voilà, moi, c'est ce que je me suis raconté à la prise de vue, et après, au montage, on se raconte autre chose, mais l'ombre, oui, voilà, elle a été utilisée sur cette séquence-là, en tout cas.
Toi, Bojina, si je me souviens bien des échanges, tu as parlé d'un montage parallèle, et on a vu une séquence avec un montage parallèle, est-ce que tu peux nous décrire ce plan ?
Oui, c'est une séquence où je suis avec ma mère en voiture, lancée dans notre enquête à la recherche de l'agent de la police secrète qui l'aurait peut-être recrutée comme agent elle-même. Et en parallèle, on voit des images d'archives d'un film qui a été produit dans les années 80 par la police politique pour former les agents aux filatures. Et donc, voilà, c'est un montage parallèle entre ma mère et moi qui avançons au présent vers cet homme mystère et puis une sorte de petite course-poursuite à la fois un peu effrayante et ridicule.
Donc
tout mon film repose vraiment sur des effets de montage. C'est un film de collage entre des sources d'images très différentes, venues du passé, de mon téléphone portable que j'utilise tout le temps pour filmer tout ce que je peux, des conversations en Skype avec ma famille, des caméras de surveillance, enfin voilà. Et pour moi, c'est très propre au cinéma de faire surgir ce qui est invisible, inaccessible, indicible dans ces effets de montage, dans l'intervalle entre deux images, dans l'association, dans ce collage, et où ensuite les spectateurs, les spectatrices se figurent une image qui n'est pas là, mais qui est une sorte de troisième image.
Oui, moi, ce que je peux rajouter aussi par rapport à l'invisible, c'est vraiment le fait qu'on a l'impression que les choses n'existent que quand elles sont vues, quand elles sont visibles, alors qu'il y a un monde, notamment le monde sonore, qui traduit comme un monde parallèle et que le cinéma peut utiliser à souhait. Moi, j'ai utilisé une musique originale, enfin, j'ai travaillé avec quelqu'un qui faisait plutôt du bruitage d'ailleurs. On a mis très longtemps à trouver quelque chose, mais il m'envoyait des tonnes et des tonnes de morceaux à écouter. En plus, il est avec des noms très étranges. Et donc, à chaque fois, j'étais baigné par cette atmosphère. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé un thème qui m'intéressait, qui était une sorte de boîte à musique. Et je me suis dit, ce sera le thème principal. Alors lui, ça l'intéressait d'avoir une sorte de guidage, mais en même temps, comme il était totalement libre, il pouvait aussi partir sur ses propres délires. Et finalement, on avait fait une première sélection. Et après, au montage, tout ça, ça a nourri parce qu'il y avait d'autres moments qui suscitaient, qui appelaient une autre musique dont on est allé piocher d'autres éléments. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, par rapport au travail de ce qu'on voit, mais ce qu'on voit pas, ou ce qu'on voit, mais comment on le voit et qu'est-ce qu'on perçoit à travers le son, quoi.
Bah ça tombe bien que vous disiez ça, Jean-Luc Cesco, parce qu'on a justement sélectionné un extrait de la bande originale d'Hérédita. Tu nous le lances, Philippe ? Effectivement, on n'a pas trop parlé de la musique dans l'échange sur la table ronde, mais c'est très évocateur, cette musique, cette boîte à musique, tu dis ?
Alors, la boîte à musique, ce n'est pas ce thème-là, en fait, mais c'était plus un autre thème à un autre moment, mais en même temps, ça y ressemble. Donc, on tourne autour. Voilà, c'était quelque chose de plus presque répétitif. Il y avait quelque chose de l'ordre de la répétition. Mais là aussi, il y a une répétition. Mais il y a aussi quelque chose d'un peu à la fois mystérieux, un peu nostalgique. Voilà, il y a une ambiance. Et l'idée, c'était de placer tout de suite le spectateur dans un univers. Même si on parle du fantôme, on ne voit pas d'image de quelque chose qui n'est pas présent, qui n'est pas visible, mais le son fait que on se dit tiens, il y a quelque chose d'étrange. On questionne l'étrange, quoi.
Je trouve aussi que là, au niveau de l'utilisation de ces différents sons, il y a des strates qui font penser aussi à la résonance qui est très présente dans ton film, puisque je l'ai vu dans cet écho à la fois entre le passé et le présent du personnage. Et on entend à chaque son comme son écho ou sa résonance. Et je trouve que ces strates, elles correspondent tout à fait à ce qu'on a vu à l'image. Moi qui n'ai pas vu l'image, mais qui ai eu le son, je trouve qu'il y a une grande correspondance, une grande concordance avec ça.
Je te remercie de le signaler parce que c'est vrai que le travail, le compositeur, c'est vraiment lié aussi à son travail. Il fait de l'électroacoustique. Et c'est-à-dire, il travaille sur des instruments anciens, le plus même ancien possible, mais qui retravaille avec des moyens numériques. Donc, il y a quand même ce mélange qui m'intéressait entre vraiment le passé et le présent, même quasiment un peu futuriste, quoi, le rapport à la musique. Et donc, ça, c'était voilà, c'est une question. Enfin, en tout cas, ça m'a travaillé tout de suite, quoi, sur le son.
On peut le citer d'ailleurs. Il s'appelle Jean-Michel Delier.
Tout à fait.
C'est le compositeur de cette musique. Ouais. Dans ton film aussi, Bojina, il y a Emilian Gatsov qui a fait une bande originale. Tu veux en parler de la musique ?
Oui, c'est vrai que c'était très important. En fait, j'ai travaillé avec lui en réalité pendant le tournage, au tout début du tournage. En fait, j'avais besoin de trouver le thème aussi musical pour m'aider à me mettre dedans, en fait. C'est un film où je suis protagoniste et il y a comme un état de à la fois de quête et de je vais assez loin dans une forme de d'obsession presque adolescente comme ça de vouloir un peu défaire le mythe familial. Et ben voilà, j'avais besoin que qu'une musique m'accompagne. Et donc, on a travaillé avec plusieurs choses, des ritournelles de chants communistes enfantins, en fait. Voilà, j'avais envie d'évoquer le passé communiste, mais sous le prisme de l'enfance, l'enfant que j'étais, en fait, dans ces années-là, dans les années 80. Et aussi une sonorité plus électronique qui nous a aussi amené à travailler une autre dimension du film qui est, en fait, le genre policier. Et comme mon film, c'est un film documentaire, toutes les images sont documentaires, mais ensuite au montage, il y a vraiment un jeu avec les codes de la fiction. Et du coup, c'est vrai que la musique soutient énormément ce jeu.
Je vous propose qu'on écoute donc un extrait de cette musique d'Emilian Gatsov. Donc. Ce qui frappe, c'est les similitudes entre les musiques de vos deux films, en tout cas pour cette ambiance-là de ton film, Bojina. Ces teneurs un peu, justement, fantomatiques, étranges. Si vous commentez.
Moi, je l'ai vu, le film de Bojina, mais il y a plusieurs années, parce que je crois qu'il doit dater de 5-6 ans, non ? Et je l'ai vu, je l'ai vu, je crois, à sa sortie, je l'ai vu en salle, et il m'avait beaucoup plu. Et effectivement, j'aime bien quand elle a dit, par rapport au côté adolescent, parce que je me suis dit qu'elle chipie, quand j'ai vu le film, on se dit, mais qu'elle entraîne ses proches dans un truc, tu te dis, mais j'ai pas envie de vivre ça, je voudrais pas qu'on... Et en même temps, ça dit tellement aussi le rapport culturel qui était instauré par les gens aussi entre eux. Et du coup, ça reproduit quelque part dans le cercle familial des choses qu'on ressent dans le champ politique. Et ça, c'est vertigineux, quoi. Parce qu'on se dit, ah oui, ça a été jusque-là, en fait. Et donc, aussi bien la mère qui, des fois, fait une sorte de chantage à sa présence, la fille qui, en même temps, va au bout parce que la vérité, elle est prête à tout pour aller vers cette vérité. Et ça donne une énergie assez incroyable, quoi. Je crois qu'à la sortie du film, je me suis dit, ouais, je sais pas si... voilà, comme ça, vous savez, des fois, vous dites le réel, il va un peu loin, quoi, vous voyez. Et c'est pour ça que je suis content de la voir en vrai. Elle a l'air, en fait, beaucoup plus sympathique.
Et pour revenir sur la bande sonore, Pascal, j'avais envie de parler de cet échange qu'on a eu lors de cette table ronde à propos de cette séquence d'ombre filmée sur un cimetière et de la bande sonore qui l'accompagne.
Oui, du coup, vous avez cité deux noms. J'aimerais citer Claire Cahu, qui est la monteuse son du film. Et avec qui on a travaillé donc effectivement toute la partition sonore. Et par exemple, donc sur ce travelling de cimetière, on entend des sons de Formule 1, de Ferrari, qui sont les sons les plus impressionnants et les plus aigus, parce qu'il y a 12 cylindres sur ces moteurs, alors que ça, il y a des moteurs qui ont moins de cylindres et qui ont des bruits plus rauques, plus métalliques. Là, c'est des sons qui montent très haut. Et avant ce travelling dans le cimetière, je parle d'un épisode de vie où j'ai assisté à mon premier Grand Prix de Formule 1 en 1990, 2 ans après la mort de mon père. Et je raconte que ces sons-là j'ai de nouveau senti mon corps en entendant ces sons-là. Et par contre, sur cette séquence-là, on a, ça c'est Claire qui a trouvé cette idée que j'aime énormément, c'est au moment où je parle de sons complètement démentiels, on n'entend rien. Et en fait, il y a un fond d'air qui est un fond d'air d'église, et de chapelle, Et donc il y a cette espèce de silence cotonneux et d'intériorité religieuse, mystique. Le pilote dont je parle, Ayrton Senna, est très mystique. Mais donc il y a quelque chose de très silencieux sur ce circuit de Formule 1 et le son apparaît en décalé et en glissement au moment du cimetière.
Et moi, je veux bien dire un mot sur la musique du film de Corinne, La Rencontre, parce que il n'y a pas de musique originale au sens où elle n'a pas travaillé avec un compositeur, mais il y a le tango, la présence du tango, parce que Nathalie qui est là est danseuse de tango, et il y a cette présence qui est très importante. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film aussi par la relation à la musique et au corps que ça instaure. Par le prisme de Nathalie, quoi. Donc on accompagne Nathalie dans son parcours, dans ce qu'elle nous livre d'elle, que je ne veux pas dévoiler parce qu'il faut voir le film. D'ailleurs, je signale qu'on doit le présenter au Lumineur le 18 septembre, donc dans la semaine prochaine à Paris.
Et pour les auditeurs et auditrices d'ici, ils pourront le revoir. On peut voir tous ces films aussi.
Mais non, mais on peut l'annoncer d'ailleurs. Non, mais parce qu'il passe, c'est vrai qu'il passe, il n'est pas encore passé justement.
Je referai un bilan de toutes les séances.
Il passe ce soir à 20h30.
Ah oui, c'est la séance en plein air.
C'est ça. Et il y a vraiment la force de cette musique et de la danse qui traduit et qui est presque un sujet même du film, quoi.
Et ça a été utilisé aussi de manière très stratégiquement intéressante dans le fait que dans ce film, la malvoyance est exprimée à travers les deux passions qui sont ma profession de sculpteur et la danse et le tango, donc, et que cette même musique a été, j'ai envie de dire, est venue se coller sur les sons des actes de sculpture. Et c'est venu s'imprégner et prendre la même cadence. Les enchaînements sont magnifiques au niveau musical, puisque c'est comme s'il y avait un fond de musique de tango qui venait se fondre dans la matière même qui est utilisée et les outils qui utilisent cette matière à travers la sculpture. Et donc, c'est vraiment ça donne quelque chose de très harmonieux. Enfin, c'est très dynamique et harmonieux en même temps, je trouve.
Est-ce que vous avez souvenir de procédés de cinéma autres qui nous évoquaient l'invisible des échanges? Je me souviens notamment de Jeanne Koslowski avec son film Les Travailleurs du Vide sur le cirque Vost qui expliquait comment elle avait voulu évoquer le vertige par ses mouvements de caméra, donc des caméras embarquées avec les voltigeuses et les voltigeurs, des GoPros ou des plans larges sur le chapiteau. Enfin, je ne sais pas si vous sauriez mieux l'exprimer que moi, vu que vous êtes cinéaste.
J'ai pas vu son film, mais ces images en GoPro donc d'une trapéziste sont effectivement... j'ai fait le lien avec le fait que ce que Corinne disait sur le corps, et là, on ressentait vraiment se balancer, cette vision. Et là, souvent, on peut appeler ça une caméra subjective, d'une certaine façon. Et je trouve qu'il y a une force de ce mouvement, même peut-être dans le fait que les images ne soient pas forcément d'une qualité extraordinaire, mais le bouger de l'image traduit effectivement très fortement ce que peut ressentir quelqu'un qui se produit comme ça en l'air. C'était très fort ça.
Et elle a aussi des plans où elle est en haut des mâts. Des mâts depuis lesquels se lancent les trapézistes, et des chutes dans le filet comme filmées depuis le haut qui sont assez réussies, je trouve.
Avec quelqu'un qui parle du vide.
Et des voix... Ah oui, voilà, on n'a pas parlé de ça, des voix off. Tu en as parlé un peu aussi, Pascal, mais des voix off où elle explique la sensation, où les acrobates elles-mêmes expliquent la sensation ressentie, et on voit leur visage en noir et blanc. Mais je crois qu'il y aura une version longue dans laquelle... elle voudra exploiter un peu plus ce procédé-là. Est-ce qu'on oublie des choses, qu'on aurait des souvenirs, des amnésies, des sensations? Vous voulez ajouter quelque chose, l'une et l'autre? Tu parlais de caméra subjective, d'ailleurs, ça me vient là. Tu n'en as pas du tout parlé sur ton film Hérédita, la présence de ce vieil homme... qui habitait dans l'appartement que tu habites maintenant. Est-ce que tu n'as pas utilisé ce mouvement de caméra subjective pour le suggérer? À un moment donné, vous êtes tous les deux avec Muguette, donc ta voisine, dans la rue, et on a l'impression que c'est lui qui vous regarde depuis le balcon.
Oui, j'ai joué un petit peu avec ça, effectivement, avec quelqu'un qui filmait depuis, pour un peu traduire à la fois le fait que de plus en plus le film nous concernait tous les deux, Muguette et moi, donc ma voisine et moi, et que malgré tout, même si le film s'orientait vers ces deux personnages-là, il y avait la présence d'un tiers dont on ne sait pas trop qui c'est, parce qu'au bout d'un moment, on quitte le domaine du fantôme littéral d'une certaine façon pour s'intéresser aux vivants, à ces deux vivants-là et avec leurs propres histoires invisibles qui émergent petit à petit, qui sont évoquées, qui traduisent finalement, c'est un bout de chemin, on les suit pendant un bout de chemin de 5 ans quand même, où il se passe des choses, et donc il reste quand même en suspens une part d'inconnu, quoi, mais comme dans toute histoire, sauf que là je vais plus le signifier à des moments donnés, quoi.
Oui, à partir de ce moment-là, le film part dans une autre direction, qui est celle de votre amitié.
Oui, de notre rencontre et de ce qui arrive aussi à Muguette dans son parcours un peu particulier avec elle a un rapport aux objets très problématique d'une certaine façon. C'est les personnes dont on dit qu'ils sont atteintes du syndrome de Diogène. On l'accompagne aussi. Donc il y a un moment donné où on va plus vivre son histoire qui a par certains côtés dramatique, mais tout en restant sur un fil quand même d'humour et de joie de vivre qui la caractérise et qui aussi à travers lequel on s'est retrouvé, quoi. Moi dans le jeu du film et elle dans le jeu dans son rapport à l'existence.
Et ces tables rondes, je ne sais pas si vous étiez déjà venues l'une et l'autre aux rencontres ad hoc auparavant. Bojina peut-être, puisque tu es Dodi.
Oui.
Ça s'appelle justement les rencontres ad hoc parce que parmi les 13 films sélectionnés, les réals et l'équipe sont invités à participer, à être là lors du festival pour favoriser ces rencontres professionnelles. Et c'est à ça un peu que servent les tables rondes, je crois. Et demain, il y en a une autre sur justement comment les réals de documentaires peuvent travailler ensemble, échanger leur... Vous allez y participer demain ?
Oui, moi, je vais y participer. C'est Marie Tavernier, qui est une réalisatrice je crois qu'elle habite à Cray, dans le coin. Donc, c'est autour de la boucle documentaire, qui est une fédération de 16 associations, à la fois des associations nationales et régionales, autour, qui regroupe des réalisateurs, réalisatrices de films, documentaires, et qui travaillent aussi bien pour défendre ce terreau de création qui est souvent fragilisé et qui en même temps représente une part de liberté créative très importante et qu'on veut défendre absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une fédération qui... Donc il y a des plénières, la prochaine est à Nantes et c'est accessible à toutes et tous. Voilà, souvent, des gens qui sont intéressés par le documentaire. Venez aussi à cette table ronde, c'est à 10h demain matin.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé.
Merci.
Merci. Merci.
C'est donc le deuxième plateau radio en pseudo-direct des rencontres ad hoc du film documentaire Hors-Circuit, Installé à Mirabel et Blacon jusqu'au 14 septembre, il est encore temps de vous joindre à cette folle rencontre. On accueille cette fois-ci quatre membres éminents de l'organisation de ce festival. Merci beaucoup à elles et eux de nous avoir rejoints dans la salle des aînés. Ce sont les aînés qui nous prêtent cette confortable salle. On est bien, hein, c'est vachement cosy.
Oh, franchement, c'est trop bien.
Vous venez d'entendre les voix d'Audrey, qui est à la production et à la coordination du festival. Salut Audrey.
Salut.
Les voix de Sylvie.
Salut.
Qui est bénévole du groupe Cœur de ces rencontres, donc qui pense le festival sur toute l'année. Tout comme Marie, salut.
Salut.
Tu es aussi bénévole, tu es aussi très investie pendant des mois. Et il y a aussi autour de la table Jean, programmateur.
Salut.
Et bénévole de ces rencontres ad hoc. Merci à tous les quatre d'être là. Ça se passe comment ces premiers jours de festival? Ça a commencé le 9 au Luxe et maintenant nous sommes à Mirabel et nous sommes samedi 13.
Il y a déjà eu pas mal de jours qui sont passés du coup. On commence un peu à accuser le coup, mais on a eu une très 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 belle soirée à l'Éden pour l'ouverture avec le film Pédale Rurale d'Antoine Vasquez. C'était blindé quoi. Franchement, c'était trop agréable. Et donc, on a aussi Antoine qui était là et qui a pu répondre aux questions après le film. Le film était d'une douceur et vraiment très, très beau. Ça a beaucoup touché et très contente d'avoir rencontré Antoine, en tout cas, pour cette projection.
Il y a eu un échange après ?
Ouais, un échange. Et puis, on a fini en bas, tous ensemble. Et il y avait une folle ambiance.
À propos de Pédale Rurale, on peut préciser qu'il sera reprojeté dimanche après-midi à 16h30, ici à Mirabel et Blacon.
Si vous l'avez raté à l'Eden.
Un très beau film.
La soirée du jeudi, ouais, les lieux, ça a très bien fonctionné. Donc le jeudi soir, c'était 13 lieux associatifs drômois qui ont participé. Enfin, il y a eu une projection de Écho, de Noémie Aubry, donc un cours. Et après, c'était demain au boulot de...
Lisa Le Tonquin.
Lisa Le Tonquin, merci. Donc, on était un peu en mode ouvrier, là. C'était une soirée un peu...
Une soirée qui donne à réfléchir sur la condition des travailleurs en usine ou à la mine.
Ouais.
Et que plein de gens ont vu dans 14 lieux, donc c'était ad hoc hors les murs.
C'est ça.
Et c'était très sympathique l'accueil qu'il y a pu y avoir un petit peu partout. Et c'est un beau projet, l'idée de diffuser comme ça dans différents lieux associatifs.
Oui, ça fait plusieurs années que vous le faites d'ailleurs.
C'est la troisième année, je crois.
Et ça a bien fonctionné, les échanges après. Vous avez tenté les visios avec les réalisatrices, réalisateurs.
Oui, ça a assez bien fonctionné, même si au moins on essaie de qu'au niveau technique, ça soit de mieux en mieux. Mais dans l'ensemble, c'était intéressant pour le coup d'avoir aussi cet échange avec Lisa sur les conditions pour filmer son film, faire son documentaire. Si on n'avait pas pu être en lien avec elle, ça aurait été un peu compliqué, je pense.
Bah, par exemple, moi j'étais à Alex, au phare d'Alex, excusez-moi, il faudrait que je tousse, mais j'étais au phare à Alex où par contre il ne pouvait pas faire la visio. Et du coup, on a fait un débat sur le film à partir de ce qu'on en avait vu, et le débat était super intéressant, même si la réalisatrice n'était pas là.
Oui, bien sûr.
Par contre, il y a des questions auxquelles on n'a pas eu les réponses, et on a trouvé les réponses quand on a rencontré la réalisatrice ici à Mirabel Blacon le lendemain.
Oui, c'est ça qu'il faut resignaler, c'est que les réalisateurs et les réalisatrices sont là, et qu'en général, on peut les rencontrer, leur parler, échanger avec eux, avec elles.
Et chaque projection est suivie d'un débat avec les réalisatrices ou les réalisateurs.
Et moi, j'étais dans le public pour cette incroyable soirée d'hier, du vendredi 12. Je suis arrivée à l'heure de l'apéro, j'avoue, pour voir petit.
C'était fou.
Cet incroyable trio.
Ouais, c'était magique.
Qui a vraiment été très généreux, là, 2 heures incroyables sur le dance floor poussiéreux de la guinguette de Mirabel. C'était vraiment génial.
Petit, ils sont vraiment excellents. Et c'est eux qui sont... Tout le son musical du teaser de Ad Hoc qu'on peut voir en ligne sur le site desrencontresadhoc.com, c'est petit qui fait la musique.
Et qui est dans la BO de Travailleurs du vide aussi.
C'est ça, ça faisait le lien avec la projection en plein air du soir, donc du film de Jeanne Koslowski, Les Travailleurs du vide, sur les voltigeurs et voltigeuses, les acrobates du cirque Vost. Et puis c'est ces trois-là, les trois mêmes musiciens qui font la musique pour, pour Vost. Donc, c'était bien thématique. Et pareil, pour la projection, il y avait plein de monde.
Ouais, carrément. Belle soirée. Vraiment très, très content.
Aujourd'hui, samedi 13, on a pu assister à une table ronde sur le thème mystérieux de filmer l'invisible. Si vous nous écoutez sur Radio Saint-Fé, vous venez d'entendre certains réalisateurs, réalisatrices, des protagonistes du film aussi, de venir en parler. Tous ces procédés de cinéma pour montrer l'invisible et l'indicible aussi parfois. Et puis là, il y a plein de projections en cours. Les gens se sont éparpillés dans les différentes salles. Il pleut un petit peu, mais c'est prévu. Là, vous avez prévu le coup cette année, là, pour les repliquer, ouais, tout ça.
Et cette année, on assure grave. C'est-à-dire que si, s'il pleut, si les conditions météo sont vraiment pourries, et ben on peut visionner. Enfin, les films sont projetés en intérieur. Enfin, je parle pour le soir. Le plein air va en intérieur.
Puis il y a deux salles de projection de toute façon là, oui, pour cet après-midi.
Aussi.
Donc beaucoup de films, beaucoup de gens qui viennent les voir. Microcontact s'est installé aussi. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un veut nous parler de ces installations sonores insolites sur le site ?
Alors Microcontact, c'est une association, je redis, une association de Remoise qui fait donc de la lutherie sauvage. Donc ils détournent des instruments, ils détournent des objets, ils créent des sons. Voilà, c'est un petit peu... C'est bien barré comme histoire. Et donc là, ils sont là, et on a une carte blanche pour eux. Enfin, ils sont invités. Il y a deux expositions sonores. L'arachnophone d'Yvan Fournier et...
Festin de Bâtarde.
Merci. Toi, tu connais bien Festin de Bâtarde. Donc voilà, deux...
Avec les coucourdes.
Avec les coucourdes, ouais. Donc c'est à venir voir aussi ça. Ils sont là, donc samedi et dimanche, toute la journée. Et il y a d'autres modules, on va dire, sonores, qui sont un peu éparpillés sur tout le site des rencontres ad hoc.
Et il y a la possibilité de faire des portraits sonores. C'est quelque chose d'assez étrange. d'après ce que j'ai compris, enfin oui, c'est ça, on se fait tirer le portrait, mais dans des conditions photo, voilà, dans un laboratoire, dans un studio photo qu'ils ont installé là sur le site.
C'est la référence, c'est Studio Harcourt, hein, qui dans les années 50 fait des photos en noir et blanc un peu de stars du cinéma hollywoodien.
Voilà, quelle référence. Et les gens enregistrent un son qui sera fourni dans un portrait sonore qui est constitué d'une boîte sur laquelle, si on appuie sur la boîte, eh ben, on entend le son qui va avec la photo qu'on s'est fait faire. Quoi. C'est assez étonnant et très original, je trouve, comme projet.
Tu l'as fait ?
Pas encore. J'attends que la pluie s'arrête, je le ferai avant l'heure de diffusion de votre émission.
Le son, c'est quoi ? On choisit une phrase, c'est ça ?
Bah, tu fais ce que tu veux.
Tu peux chanter, tu peux faire des bruits, tu peux te présenter.
Un son qui te représente, tu choisis exactement. Okay.
C'est exactement ça.
Il faut s'inscrire, je crois, pour la photo sonore. Et qu'est-ce qu'on on peut peut-être continuer par dire tout le programme du dimanche, puisque
Il
reste toute une journée avec plein de projections.
Alors déjà, on commence dimanche avec à 10h une table ronde, réalisateurs et réalisatrices réunis. Marie, tu es là justement pour parler de cette...
Oui, effectivement, c'est une table ronde qui est pour parler un petit peu de la façon dont les personnes de cette profession s'organisent en collectif dans différentes régions. Et à savoir, qu'est-ce que ça crée comme force pour défendre ces métiers qui sont donc des métiers de réalisateur ou de réalisatrice, mais aussi les métiers qui entourent ça, qui sont aussi le travail de l'image et le travail du son. Et donc, à partir d'expériences qui existent un petit peu partout sur les différents territoires, voir un petit peu, essayer de puiser un peu des idées aussi de fonctionnement et de savoir quel intérêt ça représente et quelle force aussi ça procure pour le futur.
Comment s'organiser en collectif pour pouvoir continuer à faire du documentaire ?
C'est ça, sachant que voilà, c'est quand même le documentaire, c'est quand même des films qui se font dans des économies très fragiles et qui sont un petit peu aussi souvent un peu la part oubliée au niveau financement, et etc. Et que pour qu'on puisse un peu défendre ce genre et continuer à exister dans une économie viable, c'est assez important que des collectifs existent et se défendent.
Donc ça, c'est la table ronde, c'est à 10h. C'est ouvert au public, c'est pas seulement
c'est
pour les pros.
C'est ouvert au public, largement ouvert au public. Et effectivement, avec l'intérêt que le festival invite des réalisateurs et des réalisatrices de différents lieux, ça permet de réunir des expériences un peu variées. Donc, mais c'est ouvert à tous, bien sûr.
Et donc du coup après on enchaîne à partir de 11h avec Travailleurs du vide de Jeanne Koslowski et les galeries présidentielles de Maud Julien.
Ça c'est les projections.
Ensuite à 14h on a La rencontre comme un tango de Corinne Espagnol et Lisière d'Eva Torrent. Et ensuite à 16h30 il y a À bientôt c'est une promesse de Lauriane Courson et on finit avec Pédale rurale d'Antoine Vasquez.
Pour ceux qui l'ont raté.
Et ce n'est pas terminé, puisque après, à 18h30, il y a Climax Doc.
C'est ça, donc ça, c'est Climax Doc qui fait la clôture du festival à 18h30. Et Climax Doc, a réuni 10 courts-métrages documentaires qui ont été réalisés cet été par des gens du coin. Et sachant que c'est un projet qui a été monté à partir d'une première de Climax qui existe depuis 2017, qui est la réalisation chaque année de courts-métrages de fiction. Et c'est complètement inspiré de cette idée. Donc là, cette fois-ci, sous la forme de documentaire. Donc le 1er juillet a été remis aux personnes intéressées un thème. Et ils avaient jusqu'au 31 août pour réaliser un petit court-métrage documentaire de 5 minutes. Et donc, c'est tous ces films-là, à 18h30, qu'on va pouvoir regarder avec les différentes équipes et donc la présence des réalisateurs et réalisatrices de ces films. Voilà. Et qui sont aussi visibles sur le site sous une tente aussi. Si à 18h30, ce n'est pas possible pour les gens de venir.
Ouais, toute la journée, c'est possible de visionner les films qui tournent en boucle dans sous un barnum sur l'esplanade du haut.
C'est ça.
Voilà.
Et il y a un film à chaque début de film. Chaque début de film programmé, il y a un des Climax Doc qui est diffusé.
Et oui, on en a vu un hier, tout à fait. Donc ne ratez pas ça, dimanche à 18h30, dimanche 14 septembre. C'est vos voisines, vos copains qui ont fait des courts métrages documentaires de 5 minutes sur un thème que nous n'avons pas le droit de dévoiler.
Non, le thème, on ne le dévoilera qu'à la toute fin. Sachant que...
Et à force d'assister à des projections et de voir chaque fois 5 minutes d'un des Climax Doc, on commence à faire des hypothèses sur le thème.
Je crois que j'ai une idée, mais peut-être
une idée, Audrey.
J'ai peut-être une idée, mais je ne la dirai pas.
Non, ne la dis pas.
Et il y a aussi une contrainte qui avait été donnée. On ne la dit pas non plus.
Moi, je crois savoir, mais non. Je ne dirai pas non plus.
Tu ne le diras pas ? Bon, allez, on se le garde.
Donc, c'est un très grand moment, 18h30,
la révélation.
On va parler un petit peu, avant de se quitter, de cette équipe de bénévoles sur laquelle repose ce magnifique festival. Est-ce qu'on peut parler du travail dans l'année, pas simplement de la semaine qu'on est en train de vivre, mais de ce qui se passe durant l'année avec toute l'équipe?
Ouais, les rencontres ad hoc, c'est tout un collectif en fait, de gens hyper impliqués dans différents domaines. Il y a une activité qui prend plusieurs mois, qui débute au mois de novembre, en gros de novembre à février, même plus tard, de novembre à avril. Il s'agit de sélectionner les films. Cette année, on a reçu 200 films environ et on s'était contraint à n'en garder que 12. Enfin, on a rajouté un court, donc on a 13 films. Sur 200 films, il a fallu n'en garder que 13. Ça, c'est un enjeu qui n'est vraiment pas évident, mais qui est passionnant. On est constitué en 5 ou 6 équipes. De 5-6 personnes, et on visionne des films, puis régulièrement on fait des réunions plénières, on sélectionne, on présélectionne, on refait une réunion plénière en réunissant les différents groupes, etc. C'est super intéressant, ça prend du temps, mais c'est tellement passionnant qu'on ne peut que inciter les gens à venir nous rejoindre s'ils en ont envie. Et on n'est pas nécessairement, on n'est pas obligé d'habiter Mirabel et Blacan ou Cré, ou voilà, parce qu'il y a même des gens qui participent à ça en habitant à l'autre bout de la France. C'est possible, voilà. On peut lancer un appel là-dessus parce que s'il y a des gens qui sont intéressés par le cinéma documentaire et qui ont un petit peu de temps, c'est passionnant de faire ça. J'en témoigne parce que ça fait 2 ans que j'y participe et j'ai envie de continuer.
Et ça a été une découverte pour certains qui ne sont pas professionnels de la profession et qui ont découvert vraiment toutes ces écritures que représente le documentaire, le genre documentaire. Et ça, c'est très formateur. Enfin, il y avait une fille dans notre groupe qui était complètement... en dehors de cette culture-là et qui était super contente, quoi. Parce qu'elle a découvert toutes sortes d'écritures, toutes les formes de narration possibles, diverses et variées.
Je rajoute quelque chose sur le festival, mais après j'arrête. Non, on est une soixantaine de bénévoles ces jours-ci là, pour faire tourner le festival dans les salles et puis ensuite sur le site ici à Mirabel et Blacon. Et il nous faut ces 60 personnes pour que ça fonctionne. Et le 4 octobre, c'est un samedi soir, samedi 4 octobre, on fait une grosse réunion festive qui sera un peu en forme d'assemblée générale aussi, dans laquelle on va réfléchir au projet 2026. Et là, c'est bien si, via Radio Saint-Fé, par exemple, on peut informer les gens que le 4 octobre au soir, ça vaut le coup de venir ici si on s'intéresse à ce festival, parce qu'il s'agit de savoir comment on va le relancer pour l'année prochaine et avec qui.
Ce sera où ?
Ce sera à Mirabel et Blacon, dans la salle 2, c'est-à-dire la salle polyvalente de Mirabel et Blacon.
La salle des fêtes.
Et sinon, si on veut vous rejoindre, si on sait déjà qu'on veut rejoindre, par exemple, l'équipe de programmation documentaire, comment on fait ?
Les rencontres d'adhoc.com par mail, c'est ce qu'il y a de plus pratique.
On trouve tout sur le net ?
Sur le net, le site, c'est les rencontres adhoc.com. On trouve tout.
Bon, le mieux, c'est envoyer un mail, lesrencontresadhoc@gmail.com. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelque chose à propos du festival, de ce qui se passe en ce moment, qu'on aurait oublié ? Sylvie, Jean,
juste avant la diffusion de l'émission, il y a Matabiche qui va jouer là, en concert à l'heure de l'apéro.
Ah oui, pardon. Donc les Matabiches à 18h. Bon, quand vous nous écoutez, chers auditeurs et auditrices, c'est peut-être encore temps de venir voir la fin du concert des Matabiches, fameux groupe local de soul funk. 6 personnes sur scène, hein, basse, batterie, trombone, saxophone, chant, clavier.
Ça va groover.
Ça groove à mort, ça danse. Bon, bref, vous les connaissez peut-être, puisqu'elles n'arrêtent pas de tourner. Elle et il. Maintenant, il y a deux gars quand même. Non, c'était que des filles. Les Matabiches, donc ce soir à 18h à l'heure de l'apéro. Mais ça peut se poursuivre, hein. ça a duré longtemps le concert d'hier. Donc,
oui,
venez de toute façon.
Et puis, il sera peut-être encore temps d'aller voir La Rencontre comme un tango. Et à bientôt, c'est une promesse. Et les galeries présidentielles ce soir.
C'est ça. À l'heure où vous nous entendez, vous avez peut-être encore le temps si vous êtes tout prêt. Ben, merci beaucoup à tous les quatre, à tous.
Merci.
Et à très bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.